Bonjour, bienvenue dans votre émission bimensuelle Les Métiers de l'Ombre, qui met en lumière ces héros silencieux qui travaillent dans l'ombre, le mercredi, en semaine impair, à partir de 13h, sur Radio G 101.5 FM. Et n'oubliez pas, chaque voix mérite d'être entendue. Mais alors, qui sont-ils ? Ce sont ces personnes qui exercent des métiers peu connus du grand public, mais dont l'activité est cruciale et indispensable à notre quotidien. Derrière chaque grande enseigne, entreprise ou association, se cachent de nombreux individus que l'on appelle les petites mains, sans qui la qualité ou l'expérience proposée ne serait pas la même. Alors prenons un instant pour imaginer notre quotidien sans ces métiers essentiels, et rencontrons toutes les deux semaines un de ces mystérieux individus au micro de Radio G. Dans l'épisode précédent, vous avez pu découvrir le métier de web designer dans sa globalité, en passant par le développement, le codage et le design. Ce touche-à-tout du web a même créé sa première application alors qu'il n'était encore qu'étudiant. Alors je vous invite à découvrir et retrouver notre invité dans l'émission précédente en podcast sur le site de Radio G, radio-g.fr. Ça y est, c'est l'été. Avec ce soleil qui tape fort en ce moment sur la région angevine, et qui dit soleil, dit claquettes, plage et cocktail. Ah, ça sent bon les vacances tout ça. Et qui dit vacances, dit dernière émission de la saison. Et oui. Alors pour cela, je vous ai concocté un petit best-of des meilleurs passages de nos héros de l'ombre de cette année. Allez, c'est parti pour la dernière des métiers de l'ombre. Vous avez pu découvrir notre nouvelle émission sur les métiers de l'ombre le 25 septembre dernier, avec notre première invitée, Solène Chupin, responsable de production audiovisuelle pour un youtubeur angevin. Je vous propose donc d'écouter un petit extrait où elle nous raconte son quotidien sur les plateaux de tournage et la préparation de concepts les plus insolites les uns que les autres. Si j'ai bien compris, toi tu es responsable par contre de production, c'est bien ça ?
C'est ça, totalement. J'ai commencé en étant chargée de production. Parce qu'on était une équipe beaucoup plus petite, on n'était que deux au début en tant que chargée de production. Et au fur et à mesure que les productions ont grossi, on avait vraiment cette envie, du coup, avec le créateur de contenu, de créer une équipe et un petit peu de hiérarchiser les niveaux parce que ça allait un peu dans tous les sens. Du coup, je suis passée responsable de production. On a embauché aussi pour pouvoir être capable d'assumer ces tournages qui devenaient de plus en plus gros. Mmh. Donc maintenant, on est quand même une petite équipe, mais qui est quand même belle. Et après, bien évidemment, il y a aussi toutes les autres équipes à côté, parce que dans notre cas, la production, on travaille beaucoup également avec la régie, la post-production. En tout cas, sur YouTube, c'est une grande famille et on travaille tous ensemble pour que les projets soient amenés à être bien réalisés, que ce soit au début, en passant par la première écriture du projet jusqu'à la fin, la miniature de la vidéo. Donc, c'est vraiment un énorme travail d'équipe.
Oui, du début jusqu'à la fin, en fait.
Jusqu'à la fin, oui.
Jusqu'à la publication.
Jusqu'à la publication le dimanche, quand la vidéo est en ligne.
D'accord. Et donc, pourrais-tu, par exemple, nous décrire une journée type pour toi, au travail ?
Alors, ça, c'est une bonne question. Il n'y a pas forcément de journée type. C'est pour ça que j'aime ce travail aussi. C'est que toutes les journées sont différentes, étant donné que les projets sont différents. On va pouvoir très bien être sur un projet de documentaire, comme la semaine d'après, réaliser un cache-cache, et comme la semaine d'après... faire un tournage avec Ariane, enfin, c'est dans tous les sens, donc il n'y a pas forcément
ah oui,
de...
ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Le métier est vraiment... Ça va dans tous les sens. Depuis que je fais ce travail-là, j'ai dû jamais faire la même journée, mm-hmm. alors que ça fait quand même 5-6 ans que je le réalise. Ça va dépendre aussi si dans notre semaine, on a des tournages ou pas.
Okay.
Mais typiquement, si on prend une semaine, on va toujours commencer à lundi à faire un point avec l'ensemble des équipes. Mm-hmm. Du coup, ça revient à ce que je disais à l'instant, avec la production, la régie... Pour se dire, ok, cette semaine, on a ce tournage-là. On revoit si vraiment tout le monde est bien au clair sur ce que nous allons tourner, quels vont être les moyens techniques, que ce soit le son, le placement des caméras, à quelle heure va débuter le tournage, combien de temps ça va durer, etc. Donc, on va vraiment faire une grosse, grosse phase au début de mise en lumière du tournage. Et après, on va prendre les projets et avec mon équipe, on va se dire, ok, quelles sont les priorités de la semaine et hop, on va y aller.
Donc ça, du coup, c'est, on va dire, le démarrage, par exemple, tu fais ça à chaque début de projet, en soi, pour citer l'organisation, l'ordre chronologique d'une production YouTube. ça fonctionne comme ça, vous démarrez, vous avez le concept, j'imagine.
Totalement. On a souvent un tout petit cahier des charges. Après, ça va dépendre de la grosseur du projet. Des fois, des projets sont très, très conséquents. Donc, on va avoir un cahier des charges beaucoup plus lourd pour vraiment essayer de faire ce que le créateur veut.
Oui, essayer de respecter au mieux ce qu'il a en tête.
Mais la priorité pour moi, souvent au début d'un projet, c'est que tout le monde ait les mêmes infos et qu'on commence dans la bonne direction et que vraiment ces infos sont cruciales, qu'elles soient partagées et que tout le monde ait les mêmes, vu que souvent les projets, on est à 4-5 projets par semaine à travailler en même temps. Donc on a vite fait de se tromper ou de confondre. Donc au moins,
Et les temps de pré-production sont très courts, j'ai l'impression.
Oui, souvent. Après, ça va dépendre. On essaye c'est un petit peu le cœur du métier, de prendre de l'avance et de toujours pouvoir préparer les projets le plus en amont possible. Après, on est sur YouTube. YouTube, nous, on est sur une publication tous les dimanches, toutes les semaines. Donc, on a quand même une diffusion assez conséquente. Mmh. On ne fait pas de pause. C'est très rare. On fait, je crois, il me semble, qu'une pause un dimanche dans l'année. Donc,
c'est vraiment
très peu. Clair. Donc, il faut pouvoir assumer ce rythme de publication. Donc, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir tourner beaucoup.
C'est ça.
L'avant passant l'autre. Oui, souvent, il faut bien préparer.
Merci encore à Solène de nous avoir fait partager son quotidien au sein d'une équipe de production audiovisuelle et notamment dans le milieu de YouTube. Poursuivons à présent, toujours dans le milieu de l'audiovisuel, avec notre invité Florian Stenbach, compositeur de musique de film, qui nous racontait en décembre dernier comment il trouve l'inspiration dans ses phases de création. On réécoute tout de suite un extrait de son interview. Comment un compositeur trouve sa petite patte comme ça? Toi, t'en as une?
Alors, je ne sais pas si j'ai une patte, même s'il y a déjà des gens qui m'ont dit « Ah, on reconnaît tout de suite quand c'est toi ». Mais je pense que, si on revient à ta question primaire de comment on trouve sa patte, je dirais que déjà, il faut voir qu'est-ce qui te nourrit en matière de musique, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te fait te sentir bien. Donc, à un moment donné, ta personnalité va faire que tu vas mélanger telle chose qui te plaît avec telle autre chose qui te plaît également. Et tu vas tester, tu vas échouer un milliard de fois. Et à un moment donné, il y a une combinaison qui va fonctionner. Et je pense que tu commences à créer petit à petit ta patte comme ça.
En fait, si ta musique de film est nourrie par différents styles de musique, parce que je sais que tu as un style aussi un peu électro, que tu aimes bien.
Ouais.
Donc, quels sont les artistes qui t'inspirent?
Je pense qu'en artiste qui m'inspire, je dirais qu'il y a quand même le côté, en musique de film, le côté Danny Elfman, le côté James Newton Howard, parce que ce sont deux compositeurs qui ont vraiment cette capacité à créer une ambiance lyrique, dramatique et des envolées qui sont rapidement compréhensibles. À l'instar, par exemple, de John Williams, où ça peut vite être le bazar.
Et c'est tout de suite l'aventure grandiloquente.
C'est ça, c'est tout de suite très grandiloquent. Mm. Moi, je vais être plus dans la retenue sur certaines choses, et c'est pour ça que j'aime bien James Newton Howard ou Danny Elfman, c'est vraiment des sources d'inspiration qui sont énormes pour moi. Après, pour parler plus de manière mainstream, on va dire. Je pense que des artistes comme, des groupes comme Pink Floyd ou Muse ou Queen, tu vois, c'est des artistes qui ont une palette qui est très large finalement.
Oui.
Et je crois que c'est vraiment cette vision-là qui m'inspire musicalement. Dès que c'est très large, dès qu'on a presque cette incapacité à donner un style, de donner un genre, tout de suite, moi, ça va me taper dans l'oreille et me dire. Waouh, il y a vraiment un truc, il y a vraiment quelque chose d'unique. Et par exemple, tu vois, là, j'ai travaillé sur un film d'animation où c'est une enquête policière et tu vas voir la policière qui va avoir son thème et le criminel qui va avoir son thème.
Mmh.
Et à un moment donné, quand le criminel est tout seul, il y a son thème qui est joué. Quand la policière est toute seule, il y a son thème qui est joué. Et j'ai construit tout le schéma du thème de manière à ce qu'il puisse se superposer.
D'accord.
Et du coup, quand il y a des séquences où il y a la policière et la criminelle ensemble, le thème est joué ensemble.
C'est
et tu vois, en fait, il y a toute cette réflexion qui est vraiment intéressante en tant que compositeur de musique de film et je trouve qu'il se perd aujourd'hui.
Voilà, c'était un court extrait du passage de Florian Stenbach, compositeur de musique de film, à retrouver en intégralité en podcast sur le site de Radio G. Puisque l'on est dans le domaine de la musique, et d'ailleurs c'est une prestation que Florian propose également, c'est le métier de DJ, qui agit dans plusieurs types d'événements. Et quand vient le moment de trouver un prestataire pour son mariage, par exemple, eh bien on fait appel à une wedding planner, et c'est le métier de Caroline Billy, qui est venue nous en parler au micro des métiers de l'ombre. Je vous propose donc d'écouter tout de suite quelques anecdotes que Caroline a pu vivre sur les mariages qu'elle organise. Et tu as peut-être dû faire part à des situations un peu particulières, et c'est ça qu'on a envie de savoir aussi, les petits moments croustillants qui ont pu arriver pendant des mariages, alors sans nommer forcément.
Non, bien sûr, il y a toujours des petits moments croustillants. L'année dernière, j'ai eu un mariage de mariés que j'ai adoré, c'était un peu mes petits chouchous de l'année, on en a tous des petits chouchous, mais eux particulièrement. Et en fait, le jour du mariage, la belle-sœur de la mariée a débarqué avec une robe blanche.
Ah.
Voilà. Et la mariée est arrivée vers moi très, très vénère en me disant « Est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Alors, si tu penses au fait de renverser un verre de rouge sur ta robe, non, je ne peux pas. Voilà. Par contre, si une de tes témoins le fait, je ne dirai rien. Et une de ses témoins a renversé malencontreusement un verre de rouge sur la robe blanche de la belle-sœur.
Mais quelle idée !
Ouais, j'avoue, c'était... Voilà.
Ok.
Ouais.
Donc, la belle-sœur qui vient habiller comme la mariée. Ok.
Ouais. Dans les prestataires un peu particuliers à trouver pour cet été, du coup, qui rentre pour le mois de juin, on m'a demandé des dromadaires sur un mariage.
Tu vas les trouver où ?
Donc, il a fallu que je cherche et que je trouve quelqu'un qui fait de l'élevage de dromadaires. J'ai trouvé, sur Tours, on a quelqu'un qui fait de l'élevage de dromadaires et qui se déplace pour faire des animations pour les enfants. Voilà.
D'accord.
Donc, au mois de juin, j'aurai des dromadaires sur le mariage. J'avoue, quand on m'a demandé, j'emmenais pas large, je savais vraiment pas où j'allais trouver.
Mais en même temps, tu as raison, il faut rester ouvert et à l'écoute de chaque demande.
Clairement. Bon, oui, si totalement. J'avais pas trouvé, je lui aurais dit, par contre, c'est un peu difficile, on va partir sur des chevaux. Ce sera plus simple.
Et après, toi, des fois, quand ça rentre pas dans ton éthique, tu peux dire non aussi ?
Oui, quand ça rentre pas dans mon éthique, ouais.
Ouais.
Oui, oui. En fait, il faut quand même savoir mettre des limites aux mariés quand il y a vraiment des choses qui sont pas... qu'on estime en tout cas pas correctes ou par lesquelles on n'a pas envie de passer. Il faut savoir dire non et il faut savoir poser ses limites aussi, sinon on se fait manger, quoi.
Bah, c'est sûr, donc, forcément.
C'est important, ouais.
Quel plaisir ce genre d'anecdote croustillante. Et c'est d'ailleurs ce que nous a partagé également Charles Clémenceau, qui est décorateur événementiel. Entre demandes loufoques et temps d'installation serré, Charles est venu nous raconter quelques moments insolites de son quotidien. Trois questions, Charles. La première, quel est le décor le plus fou que tu aies eu à réaliser ?
Je pense que ça a été la sortie du film Avatar. Un client a choisi cette thématique-là. Et là, on a recréé du coup toute une forêt vraiment un peu fluorescente avec des couleurs très vives, avec des éléments, des rochers suspendus, tout ça dans une salle. Et là, celui-ci, quand le soir est arrivé, que toutes les lumières ont été allumées, que la musique était lancée, là, on s'est dit, ah oui, effectivement, là, ça claque.
Fier de vous, quoi.
Ouais.
Autre question, quelle est la demande la plus incongrue que tu aies eue ? Ou là, tu t'es dit, là, je sais pas, ou bien là, c'est chaud.
Un barbecue dans un R2-D2.
Oui, mais je peux comprendre. Un barbecue dans un R2-D2, ça peut paraître un peu loufoque. C'était pourquoi ça exactement ?
Ah bah, ça, c'est pour le projet du coup d'un tournage avec un youtubeur qui s'appelle Amixem. Il fallait faire cuire apparemment des saucisses du coup dans un R2-D2. Mettre un barbecue dans un R2-D2.
C'est très drôle.
Donc, ouais.
Oui, c'est vrai que c'est un peu une demande un peu incongrue, j'avoue. Et là, par exemple, troisième question, on va dire, l'anecdote à laquelle tu penses aujourd'hui quand on te parle de qu'est-ce que tu as vécu de plus fou sur un projet comme ça ?
Alors, on a de la chance, ça se passe toujours quasiment bien. Mais il y a des fois là où on se fait des petites sueurs, c'est à l'approche du coup de l'ouverture des portes, on va dire, des événements. Et notamment un événement sur Paris où à peine 3 heures avant l'événement, là on se rend compte qu'en fait avec le traiteur, les buffets ça passe pas. Et du coup, il n'y aura pas assez de place dans la salle.
Ah.
Et là, ils nous disent qu'il faut tout bouger. Et là, par contre...
À 3 heures avant l'événement ?
3 heures avant l'événement, oui. Donc, quand on a mis une journée entière à monter le décor, on nous dit 3 heures avant, il faut tout bouger. Là, on fait une petite réunion d'équipe et on se dit, bon, les gars, on y va et c'est parti. Et là, on ne réfléchit plus, on y va, tout le monde met la main à la pâte. Et après, voilà, on finit juste avant, ça ouvre et là, tout le monde est content et là, c'est satisfaction.
Oui, mais j'avoue que là, petite sueur quand même.
On suit un peu là, oui, c'est sûr.
Ah là là, les douces joies de l'événementiel. Mais c'est toujours plus ou moins la même chose avec ces métiers de l'ombre. Tiens d'ailleurs, c'est aussi le cas de Guillaume Huchet, qui est Game Master en Escape Game et qui est venu nous en parler au micro de Radio G. Mais avant cela, je vous propose une petite pause musicale avec un titre qui fait penser aux vacances, avec une reprise de Sous les Sunlights des Tropiques de Gilbert Montagnier, revisité par Suna.
Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, à l'heure d'été c'est facile, prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau, j'ai dans le cœur un bongo, j'ai dans la tête un oiseau qui te dit tout haut, viens danser. Sous les sunlights des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer, en attendant viens danser. Entre les vagues et le ciel, tu ne seras jamais la plus belle que cette chanson qui t'appelle. Prends-moi la main, viens danser. J'ai dessiné sur ta peau un palmier au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on est bien, tout est beau. Femme et fait seul, viens danser. Sous les soleils des tropiques, l'amour se raconte en musique. À toute la nuit,
dans l'émission des métiers de l'ombre sur Radio G 101.5 FM. Et aujourd'hui, nous redécouvrons à travers quelques extraits nos invités de cette saison, tout comme Guillaume Huchet, Game Master en Escape Game, qui est venu nous raconter quelques passages de joueurs plutôt coquins. Alors, j'aimerais savoir si tu as déjà été témoin de quelques actions ou réactions surprenantes de la part de tes joueurs pendant... certaines parties, as-tu des anecdotes amusantes que tu aimerais nous partager ?
Alors, du coup, depuis un an et demi, je suis assez chanceux. J'ai quand même globalement des groupes où je n'ai pas eu des dingueries à observer. Forcément, des prises de bec, ça arrive.
Mais ça doit être inévitable.
Ouais, des familles, des amis qui viennent passer un bon moment et qui ressortent avec une petite thérapie parce que ça ne l'a pas du tout fait à l'intérieur. Pourtant, on le dit, hein, la communication, c'est essentiel dans un escape game, comme dans la vraie vie. J'ai des collègues qui ont observé des choses un peu plus croustillantes. J'ai un collègue une fois, donc on a une salle qui est vraiment assez grande, mmh. avec plusieurs espaces distincts. Et donc on avait, je crois, une famille avec donc, parents et enfants. Donc les parents ont profité que les enfants étaient un peu plus loin dans l'escape game pour se retrouver tous les deux. Et manque de chance, ils étaient juste sous la caméra de mon collègue, donc juste sous la prise de son.
D'accord.
Et je crois que le papa a glissé à la maman une petite invitation à connotation sexuelle
ah oui, carrément.
Sur un des meubles de l'escape game. Heureusement qu'il n'a pas fait suite.
Oui, bah dis donc, le petit dimanche en famille, sympa ça.
Ouais. Je sais pas s'ils ont gagné au final du coup.
Mais peut-être que le mari a gagné quelque chose à la fin lui.
Peut-être.
Ouais. Ce genre d'anecdotes me font toujours rire. Et c'est grâce à nos invités, ces héros de l'ombre. Et on continue dans l'univers du jeu avec Vincent Jamgotchian qui nous parle de son métier de designer et directeur artistique de jeux de société. Je vous laisse redécouvrir l'interview de Vincent que vous pourrez retrouver en podcast sur le site de Radio G. C'est incroyable, juste un panneau sur un trottoir quoi.
Ah ouais, non mais et j'ai fait du mapping sur être humain, j'ai fait des trucs, quoi. Franchement, et le temps on l'a pas vu passer. Et au bout de 2 ans, quand même, Ibiza, c'est un rythme de vie assez éreintant quand même. Donc on s'est dit, bon, on va quand même rentrer en France. Et donc on est rentré en France et c'est là que j'ai mis... Là, je me suis dit, bon, j'ai envie d'avoir un contrat en CDI, un truc un peu stable. Et donc j'ai cherché un boulot et là, je suis arrivé dans le monde du jeu de société que je ne connaissais pas. J'ai vu une annonce, j'ai répondu à cette annonce. Ils ont aimé mon profil et donc j'en ai profité. Et donc en fait, j'ai signé chez un éditeur qui, je l'ai compris quelques temps après, est un éditeur très important du monde du jeu de société qui s'appelait Space Cowboys.
Okay.
C'était un studio qui était créé depuis 2 ans et qui était un studio très prometteur puisqu'ils avaient déjà un titre, enfin ils avaient plusieurs titres, mais dont un qui est extrêmement connu qui s'appelle Splendor. Et donc voilà, j'ai signé chez Space Cowboys. J'ai travaillé sur toute la ligne Time Stories, si ça parle à certains. Et j'ai travaillé sur plein d'autres choses avec eux. Et donc je suis resté avec eux pendant 3 ans. J'ai rencontré toutes les grosses têtes du monde du jeu de société. Ça m'a permis, quand j'ai quitté les Space Cowboys, d'enchaîner sur un autre projet. J'ai quitté les Space Cowboys parce qu'il y avait un autre projet qui me faisait de l'œil.
D'accord.
Et c'est là que je suis parti vivre en Bretagne. J'ai signé pour Monolith Board Game. Et là, Monolith Board Game, on rentre dans un monde qui est un peu différent parce que les gens s'imaginent grosso modo Skijo, Uno, Monopoly éventuellement. Et bien là, tu vois, je suis arrivé dans un monde qui est le jeu de figurines. Et le jeu,
ah oui.
Ça ne se vend même pas en boutique, ou très peu, ça se vend sur des plateformes de financement participatif. C'est un gros jeu de plateau qui coûte un peu entre 200 et 300 euros pièce, la boîte de base, parce que derrière, tu as toute une série d'extensions, tu peux en avoir jusqu'à 900 ou 1000 euros d'achat. Et en fait, tu te retrouves avec 200 figurines en plastique qui font... 50-60 mm de hauteur et tu as tous les personnages. Et en l'occurrence, là, moi, je voulais signer pour ce projet-là parce qu'ils avaient signé la licence Batman.
Ah et oui.
Depuis tout petit, je suis un grand fan de Batman. J'ai toujours rêvé secrètement d'être Batman.
D'être Batman.
D'ailleurs, je ne te l'ai pas dit encore.
Ah non.
Non. Mais, et donc, j'ai accompli mon rêve, en fait. C'est-à-dire bosser en tant que graphiste sur un projet avec la DC Warner. Donc, on bosse avec une franchise. C'est un tout autre aspect du travail parce que là, tout est chapeauté par la licence, en fait. Tu payes une licence et ils disent oui ou non sur tout ce que tu fais. Mais ça va de la moindre virgule, jusqu'à la moindre virgule. Et là, je me suis retrouvé à travailler, à faire de la DA à proprement parler, c'est-à-dire à diriger des artistes dont je lis les BD depuis des années.
Ah oui, vraiment ?
Et c'est avec une certaine émotion que je me suis retrouvé à... Ouais, là, j'ai accompli mon rêve. Là, j'ai touché le Graal. Ouais.
On continue dans le milieu du graphisme car nous avons rencontré également Manon Nicolas, graphiste, et qui nous parle de ses incroyables projets avec des entreprises que l'on connaît tous. Allez, on écoute Manon. Manon, ça va toujours ?
Ça va toujours merveilleusement bien.
C'est parfait. Alors, tu travailles avec divers clients, que ce soit des marques connues, des établissements ou autres organismes. Pourrais-tu nous citer quelques anecdotes rencontrées sur des projets comme une demande particulière, un client un peu difficile ou même un projet complètement fou ? Dis-nous.
Ok. Alors, effectivement, j'ai pu travailler pour autant des particuliers que pour des grandes marques. Voilà, donc ça c'est super parce qu'on peut voir vraiment les univers différents. Et effectivement, la petite anecdote, c'est que quand j'ai pu travailler pour Marvel, moi je pensais pouvoir vraiment être hyper libre, mais quand on t'envoie un mail avec un cahier des charges de 70 pages, voire même 100 pages, tout de suite on se sent beaucoup plus limité en fait. Donc c'est un petit peu le côté où j'ai déchanté. parce qu'en fait, par exemple, tu vois, je pouvais pas vraiment retoucher les personnages, je pouvais pas couper les personnages, c'est-à-dire que les personnages devaient se mettre en entier sur l'affiche, je pouvais pas placer tel personnage à droite, mais il devait être à tout près à gauche. Vraiment, mais des trucs un petit peu où tu te dis, mais pourquoi ? Oui. Juste pourquoi, en fait, c'est hyper limitant dans ta création. Mais malheureusement, c'est des, comment dire, un petit peu des consignes.
Oui.
Il y a tellement de choses, tu vois. Par exemple, j'ai travaillé aussi sur les Schtroumpfs. Et sur les Schtroumpfs, c'était pareil, en fait. C'était le grand Schtroumpf. Il doit être en premier plan. Tous les autres, ils doivent être en second plan. Donc, il n'a pas le droit d'être en dernier plan. Il n'a pas le droit d'être caché. Chaque Schtroumpf ne doit pas aussi être caché au niveau des pieds. On doit voir tous les pieds de tous les Schtroumpfs. Alors, je te laisse imaginer le temps passé juste sur ça. C'est terrible. Et si tu veux d'ailleurs une anecdote un petit peu cinglante,
allez,
j'en ai une pour toi. J'avais été contactée par Louis Vuitton. Donc, j'étais super contente. Je me suis dit, ok, génial. Pourquoi ils ont besoin de moi, etc. Machin. Et donc, en fait, la nana, elle m'appelle. Donc, je suis au téléphone avec elle et elle m'explique qu'en fait, du coup, voilà, ils aiment beaucoup mon univers. Ils ont vu que j'ai travaillé sur des beaux projets, etc. Et donc, en fait, elle me dit, voilà, donc... Et là, elle change un peu de ton. Elle me dit, voilà, donc, faudrait pouvoir venir sur Paris à peu près 2 à 3 jours par semaine. Donc, j'espère que vous avez quelqu'un pour vous héberger parce que c'est pas pris en charge. Et ensuite, du coup, moi, je lui parle du tarif journalier. Donc, moi, par exemple, au tarif journalier, je suis à 500€ la journée. De par mon expérience, mon expertise et tout ce que j'ai appris, en fait. Et elle me dit, ah non, mais ça va pas du tout le faire. Nous, ici, c'est 100-150€ la journée.
Ah oui.
En fait, là, je ne gagne rien dans ce que vous me dites.
Non, non, oui.
Et donc là, elle s'est un peu énervée. Elle m'a dit, mais vous vous rendez pas compte de la chance que c'est. Il y en a beaucoup qui le feraient bénévolement. J'ai fait, bah, allez-y, trouvez les bénévoles. Mm-hmm. Ce ne sera pas moi.
Oui, c'est ce jeu de se dire que la marque est connue. Donc, travailler pour cette marque, là aussi, ça... cette plus-value, alors qu'en fait, pas forcément.
Ouais, c'est ça, c'est on te paye en visibilité, quoi.
Mmh, oui, bah, c'est ça.
D'accord.
Et enfin, pour terminer ce petit best-of, je vous propose de vous envoler sous les cocotiers pour retrouver Camille Delaplace, directrice de l'association Projet Primates France, qui est venue nous raconter ses missions pour sauver et préserver les chimpanzés. C'était au micro de Radio G. Alors, pour les besoins de l'association, tu dois parfois te déplacer en mission. Pourrais-tu nous raconter quelques anecdotes, aventures, mésaventures que tu aurais rencontrées avec les primates ou non, justement, sur tes déplacements en mission ?
Alors, une première, c'est une belle histoire pour le coup, c'est pas une mésaventure. C'était lors de ma mission à Madagascar. Donc, comme je le disais, j'ai fait une partie en forêt pour étudier les lémuriens, mais aussi une partie dans les villages pour faire une étude auprès des populations locales. Et donc, dans un des villages où je me suis rendue, j'ai assisté à un accouchement. C'était pas du tout prévu, mais je faisais beaucoup, beaucoup de photos. Et là-bas, ils n'avaient pas de quoi prendre des photos. Donc, je sais plus où j'étais, mais on m'a appelée, on m'a crié « Camille, Camille !» Donc, je suis arrivée, ils m'ont demandé « Prends des photos, prends des photos !» Et au début, je voyais pas de quoi. J'ai été mise au milieu d'un amas de gens, je ne voyais pas. Et en fait, j'ai vu une femme accoucher. Et donc, ils m'ont demandé de prendre des photos.
Okay,
oui. Ce qu'on ne demande pas en France, hein, c'était assez particulier quand même. Et puis finalement, ça a été un moment magnifique parce que donc, tout s'est bien passé. La maman et le bébé allaient très bien. Et puis en fait, la famille m'a fait comprendre qu'ils voulaient que je choisisse le nom du bébé.
Ah,
ce
oui.
qui pour eux est un acte de confiance. C'est vraiment énorme. Ils mettaient une confiance énorme en moi. Et ça revenait à ce que je devienne la marraine, en fait, du petit un peu. C'est pas comme ça que le disent, mais c'est un peu notre équivalent, finalement. Et donc, j'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir nommer ce petit garçon qui s'appelle Lou.
D'accord.
Qui, bah, aujourd'hui, a déjà 6 ans.
Ah oui.
Oui, oui.
Donc, c'est drôle parce que, via ces missions, en soi, tu as été maman de 2 petits singes et marraine d'un petit garçon là-bas.
Oui, exactement. Et puis comme l'association repartait en mission là-bas, j'ai pu faire imprimer les photos. Donc la famille a eu les photos aussi de l'accouchement et ils étaient très très fiers.
Trop bien. Voilà, c'est terminé pour cette dernière de la saison. J'en profite pour remercier tous nos invités qui sont venus nous partager leur quotidien à l'ombre de tous et pour quelques minutes venir sous le feu des projecteurs pour mettre en lumière leur métier. Merci à toutes les équipes de Radio G de nous avoir permis de présenter ce format un mercredi sur deux à partir de 13h. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter et d'être au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite à tous un très bel été. Bonnes vacances. Bye.